Le grenier à son, la mémoire sonore en Royan-Vercors. Notre magazine d'archives sonores nous propose aujourd'hui les commémorations du 8 mai 1945 à travers un entretien réalisé en juin 2014 avec l'association Les Pionniers du Vercors. Nous sommes en compagnie de Daniel Huillier, Philippe Huet et Monsieur Carminati. Daniel Huillier, bonjour.
Et bonjour.
Philippe Huet, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Huillier, vous êtes actuel président de l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors. Communément, on dit Association des pionniers du Vercors,
nationale
du Vercors. Vous, monsieur Philippe Huet, vous êtes, on peut dire, aussi une figure de l'association, puisque de part déjà votre père, qui était un précurseur du maquis, hein, une figure du maquis, vous êtes un infatigable militant de l'Association des pionniers. Une année, on peut dire, aussi très riche pour vous, puisque c'est des commémorations qui se succèdent maintenant depuis quelques mois, et puis beaucoup aussi d'actualités, des choses de part et d'autre qui résonnent pour cette année 2014. Alors avant d'aborder un petit peu tout ce qui compose l'actualité de l'association et ce fil conducteur, c'est peut-être reparler un petit peu de la création de l'Association nationale des pionniers combattants volontaires du Vercors, qui maintenant a 70 ans, hein, comme les événements, peut dire que c'est quelque chose en symbiose qui a avancé pour la mémoire. Et peut-être maintenant aussi, quelque part, on parle aussi de transmission. Monsieur Huillier, vous êtes donc le sixième président, c'est bien cela ?
Cinquième.
Le cinquième président ?
T'es le cinquième, t'es le successeur, t'es le cinquième après Chavant.
Oui, cinquième, oui.
Oui, non, mais donc... Il y en a six.
Ah, on est six.
Chavant, deux.
Georges Ravinet.
Trois.
Louis Bouchier.
Quatre.
Georges Perret.
Cinq, oui. T'es le sixième en tout, mais t'es le cinquième après Chavant.
Ah, d'accord.
Oui. Voilà.
Vous êtes l'actuel président. Maintenant, on peut dire que depuis Eugène Chavant, eh bien, beaucoup de mémoire s'est un peu forgée depuis ce temps-là. Depuis combien de temps vous êtes président, monsieur Huillier ?
Eh bien, j'ai remplacé notre ami Georges Ferrer, qui était président, mais malheureusement, je crois que les quatre dernières ou cinq dernières années, j'étais président délégué, et depuis même l'inauguration du mémorial, il n'a pas pu y assister, donc ça fait 20 ans. Quand il est décédé, je lui ai succédé quelques temps après. Alors donc ça fait à peu près, je sais pas si ça fait 19, 18, enfin, bon, pendant 4 ans, j'ai suppléé Georges, qui était fatigué, malade. Notre association a démarré dès 1940, sous la présidence de Eugène Chavant, qui était notre patron, comme on l'appelait, comme tout le monde l'appelait, le patron. J'ai connu, bien sûr, tous les présidents qui lui ont succédé. D'ailleurs, j'ai fait partie du conseil d'administration des pionniers à la mort de mon père en 1961, jusqu'à la mort de monsieur Eugène Chavant. Quand il est décédé, j'ai dit, bon, moi j'avais mes affaires, j'ai dit, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. J'étais toujours membre, bien sûr, des pionniers, mais j'étais là toutes les... très souvent aux anniversaires, aux assemblées générales, mais je ne gérais pas. Je suis revenu parce que c'est Ferrer qui m'a demandé à ce que je revienne, mais avant qu'il tombe malade. Et depuis, je suis là, voilà.
Vous avez, on le précise, hein, participé à cette aventure, hein, du Vercors. Vous étiez à l'époque bien un adolescent, hein, on peut dire ça, quand vous avez connu les événements.
Oui, après les combats de Saint-Dizier le 13 juin, toute notre entreprise, nous sommes partis... avec les véhicules, les chauffeurs, nous sommes allés à Saint-Martin-en-Vercors. Mon père était un des bras droits de Chavant, Clément, et on logeait tous à l'hôtel Breton à Saint-Martin-en-Vercors. Nos véhicules étant stationnés vers l'ancien tunnel qu'il y a avant d'arriver aux baraques, mon père me disait, va donner des ordres à tel chauffeur. parce que nos chauffeurs étaient en logés dans une maison. On avait notre camion atelier. On avait un atelier là, chez les frères Michel, qui était à Saint-Martin. Et tout notre personnel logé dans une ferme juste en dessus. Et c'était leur cantine et ils étaient là. Et moi, je faisais l'agent de liaison pour aller donner les ordres à nos personnels.
Alors maintenant, depuis la création par Eugène Chavan de l'association, ça a été, eh bien, on peut dire, spontanément un devoir de transmission aussi de prévention, qui a après fait la force de cette association en termes de commémoration, puis de surtout de ne jamais oublier.
Oui, au départ, cette association s'est surtout occupée, bien sûr, de tous les jeunes qui avaient participé au maquis, et surtout à la reconstruction du Vercors, dont Eugène Chavan qui a pesé dans cette reconstruction. Et bien sûr, il y avait des liens de frères d'armes, puis-je dire, chaque fois qu'ils se réunissaient, tout de suite après ces événements, chaque année quand on se réunissait à Pontarroyan. Pourquoi Pontarroyan? Parce que c'était le berceau étant Villard-Blanc, mais pour certaines raisons que je n'ai pas à expliquer, le siège avait été mis à Pontarroyan. Non, le siège c'était même Valence, je crois, non?
Le siège social?
Oui.
C'était Pontarroyan, je crois.
Je ne me rappelle plus. Bon.
Vous êtes également président d'une autre association autour de la Résistance?
Oui, je suis président de la Résistance Unie de l'Isère depuis 15-20 ans, oui. Ben, c'est des amis de mon père. Comme j'étais le plus jeune, ils m'ont dit un jour à la remise du concours de la Résistance. Ils étaient tous à la préfecture, tous des copains de mon père m'ont dit « Mais faut que tu viennes là parce qu'ils avaient des problèmes avec certaines personnes. » Mais voilà, je dois remonter entre 18 et 15 ans, je crois. Enfin, tout ça, c'est pour ça que cette année, c'est une année importante parce que nous sommes en train de mettre de l'ordre et voir si, pour qu'on puisse passer la main à des jeunes s'ils veulent s'en occuper parce que nous, enfin moi je peux bien continuer, mais il n'y a plus personne, alors ça... Mais de toute façon, le relais, il faut qu'il se passe. S'ils veulent le prendre, je parle des jeunes, il y en a deux en face de moi, là. Des jeunes, mais c'est des jeunes qui ont 75 ans.
Ils sont tous les deux des papis.
Alors, puisque vous dites, effectivement, maintenant, les anciens combattants, vous me disiez, il n'y en a plus beaucoup, ça, c'est une réalité. Est-ce que pour vous, vous sentez justement que c'est un peu une année de transition et quelque part, il y a... Bien, un devoir de transmission qui est de plus en plus prégnant.
Ouais, la transmission, d'abord, il fallait qu'on transmette nos mémorials à l'État. Ça fait 13 ans qu'on s'en occupe. L'État a perdu nos dossiers, mais enfin bon. Alors là, il faut qu'on règle ce problème, qui n'est encore pas réglé à ce jour. Hein.
Bon, on a remis les clés officiellement au Premier ministre. Vous y étiez, non? Le 21 juillet.
Et non, j'ai pas pu.
Ah ben, vous avez raté quelque chose. Le Premier ministre a pris nos clés avec l'engagement ferme de faire aboutir la paperasserie le plus rapidement possible. Voilà.
D'accord.
Et avant de les remettre, nous avons mis nos mémorials en état. Et c'est l'association qui a réglé tous les frais. Enfin, on a eu une petite subvention sur 91 000 euros. On a eu une subvention de l'État de 25 000. Et ça, c'est l'association par les dons qu'on reçoit, par tout est en état. On va remettre ça.
C'est le président. Je sais bien que l'État n'a pas donné grand-chose, mais quand même, aux 25 000, il faut ajouter 12 500 pour la préparation des cérémonies qu'on a encaissées. Donc en fait, on a 37 000 sur 91 000.
Il y a longtemps déjà, avec notamment le site de la résistance historique en Vercors, avec... bon nombre de sites, on parle de Nizier, de Vassieux-en-Vercors. Alors ça, c'est tout ce qui a été un petit peu on peut dire après la guerre, ce qui a été dans un premier temps le projet, la mission des pionniers.
Nos mémorials ont été de donner une sépulture aux combattants et aux civils, ceux qui sont tombés un peu partout. Une grosse partie ont été rassemblés, mais pas tous, hein, puisqu'on a eu à peu près... 600 morts, je crois, à peu près. Hein. Et dans les cimetières, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont chez eux, hein, c'est pas... Ils sont restés dans leur pays, les parents les ont gardés. Enfin, il était de notre devoir qu'on redonne nos mémorials en état, à l'État français. Alors je pense qu'on aura accompli notre devoir, et plus que notre devoir.
Alors, Monsieur Huette, vous vous êtes quelque part un peu la cheville ouvrière de l'association des pionniers aussi. Vous mettez beaucoup de choses en place. Et de par bien, votre mission, c'est également beaucoup de temps fort qui se déroule cette année. Alors, vous avez des missions dans l'association, on peut dire, il y a des secteurs.
Alors, attendez, je vous arrête, cheville ouvrière. Alors, ici, on travaille en équipe et on a chacun des talents différents. C'est fait comme ça. Notre secrétaire général est redoutablement efficace sur le terrain. Moi, j'ai par habitude de vieux fonctionnaire, je fais les papiers. Bon, donc, à nous deux, avec Daniel, à trois, ça fait une charrette à trois chevaux. Alors donc, on travaille en équipe, mais notre motivation est la même. Alors, Alain Carminati a perdu son père au Vercors. Il est pupille de la nation. Il a fait une carrière militaire notable, puis une carrière civile. Et quand Daniel lui a demandé de prendre le secrétariat général, très vite, en quelques mois, tout le monde a dit c'est le bon. Daniel a fait le bon choix. Bon, et ça continue. Bon, et on a encore une fois, on a chacun notre créneau, et je crois que on s'entend pas mal.
Super.
Voilà. voilà. Et alors, il a un vrai talent reconnu pour organiser les cérémonies à tous les niveaux. Alors, du niveau de la petite cérémonie intime, au Premier ministre, qu'il a reçu avec Daniel le 21 juillet, et la préfecture de la Drôme a bien voulu reconnaître et lui écrire qu'il avait fait l'essentiel du boulot, du travail, ce qui n'est pas rien. Bon, il a une deuxième très grande qualité, c'est qu'il connaît tout le monde sur le plateau, et il est apprécié par tout le monde. Moi, de fait de mon mode de vie entre Paris et Voiron, je connais beaucoup moins, disons, les uns et les autres. Encore que toutes les fois que je suis sur le plateau, je trouve, j'ai toujours le même, disons, le même attachement. Voilà. Donc, je crois qu'on se complète bien. Voilà.
C'est votre avis, Monsieur Carminati?
Non, mais bon, c'est sûr, je peux pas être contre ce qui vient d'être dit. Il est certain que bon, il y a quelques années en arrière, quand on m'a demandé si je voulais bien prendre le secrétariat, Daniel m'a demandé de prendre le secrétariat, pour moi, c'était quand même, j'ai vu que c'était une lourde tâche. Par contre, je suis beaucoup plus côté chiffres que côté secrétariat. Bon, je tiens beaucoup mieux les comptes que je tiens le secrétariat. Je suis plus, c'est beaucoup plus dans ma branche, quoi. Mais par contre, compte tenu que j'ai Philippe qui, lui, par contre, tout ce qui touche l'écriture, c'est lui, tout ce qui touche les chiffres, c'est moi. Et Daniel, oui, c'est notre plume, voilà. Et Daniel qui est notre tête, donc avec ça, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'au pied du Vercors, on a dans les médias une tête qui tient la route, et je pense que ça continuera encore un petit peu après. Et j'espère après le 8 mai 2015.
Ben puisque M. Carminati, on parlait bien de l'association, c'est aussi, vous me disiez tout à l'heure, il y a un certain nombre de sections aussi qui sont dispersées sur le Vercors et qui sont aussi un relais avec qui vous êtes en contact pour différents projets.
Oui, disons que l'association, il y a le bureau national. Le bureau national qui couvre donc les sections. Les sections, si je dis sa tête, je crois qu'il y en a six sections qui au total regroupent à peu près 260 membres, avec donc plus ou moins de membres par section. Par contre, je tiens à faire des éloges à toutes les sections, bien entendu, parce qu'elles font un bon travail, mais surtout à celle de Saint-Jean-en-Royans qui est tenue de main de maître par Josette Bagard.
Qui englobe tout le Royans.
Qui englobe tout le Royans, bien sûr.
Et Vercors.
Oui, mais en fait, je parle de la tête de la section, de la tête de la section de Saint-Jean-en-Royans, qui est Josette Bagard. Ouais. Et qui gère tout ça dans tout le Royans et une partie du Vercors. Voilà. Donc les sections se portent relativement bien dans les médias, il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'il y a de malheureux petit à petit, bon, ben, les rangs s'éclaircissent. Bah, pour nous, on a des sections qui tiennent la route. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Alors, régulièrement, les pionniers aussi, c'est un écho avec le bulletin que vous éditez de manière périodique. Cette année, on peut dire que c'est un bulletin qui a des contours un petit peu particuliers.
Alors, les pionniers ont édité dès 44-45, une première série de bulletins jusqu'en 48-50. Et puis, ils ont recommencé en 1972. Et depuis 1972, il y a 127 numéros de bulletins qui sont une mine pour les historiens. Et alors, ces bulletins comprennent en général trois parties. Un éditorial du président, une deuxième partie concernant la vie de l'association et une troisième partie concernant des notes et témoignages. Et c'est l'ensemble qui, pour les historiens, est tout à fait intéressant. Alors, comme l'a dit le président, le 70e anniversaire est pour les pionniers le chant du cygne, la dernière année, puisque décision a été prise de dissoudre l'association pour le 8 mai 2015. C'était voté à notre Assemblée générale du 12 juin de cette année. Et à ce moment-là, de voir si les jeunes, comme l'a dit le président, je ne reviens pas là-dessus, si des jeunes sont prêts à prendre la relève. Mais en tout cas, l'association en tant que telle se dissout. Ça s'est acquis le 8 mai 2015. Donc c'est important que le dernier bulletin ou l'avant-dernier bulletin ait une consistance particulière. Et le choix a été fait de donner une bonne part dans ce bulletin à ce qu'on a appelé des témoignages pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on a interrogé, on a posé la même question, cette question est la suivante: qu'estimez-vous nécessaire de transmettre de la résistance au Vercors aux jeunes générations? Et on a posé la question à des maires du plateau, à des éducateurs, à des militaires, à des associations, aux représentants du monde du tourisme, à des historiens et muséographes, avec l'idée que l'ensemble, l'ambition, c'est que si on prend la peine de lire ces témoignages, on doit pouvoir dégager quelques lignes de force. Alors, et qui seront en fait, ça s'ajoute, si vous voulez, au testament des pionniers proprement dit. C'est les pionniers dans la société, dans l'ambiance de la société, et qui a déjà pris pas mal de suites. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé cet été, le nombre de commémorations qu'il y a, qui est absolument sidérant, bon, d'événements. Donc les pionniers, avant de passer la main, disent « voilà, nous, voilà ce qu'on pense », parce que leur pensée est très claire, affirmée et constante depuis 70 ans, et voilà ce que pense la société. Donc l'ensemble constitue un héritage, si vous voulez. Donc voilà la trame de ce numéro.
Alors, puisque l'association sera automatiquement dissous, il y a des perspectives d'autres structurations autour de la mémoire, de la résistance, qui commencent à s'affirmer?
Alors, je parle sous le contrôle du président et du secrétaire général. Il y a à la fois, je crois que c'est très classique, c'est humain, il y a à la fois une volonté d'un certain nombre de familles de continuer, de garder des liens. Il y a une volonté, à la suite des événements de cet été, des élus, d'une part, et des militaires d'autre part, et des universitaires nous ont dit ça serait intéressant de continuer. Et bon, alors ça c'est l'idée, mais si vous travaillez dans une association, il y a les idées et puis il y a après, faut aller au charbon. Et voilà, et comme l'a très bien dit le président, notre génération est aussi en train de, disons, de passer la main. Voilà, donc où il y a des volontaires, où il n'y en a pas, et on saura tout ça, je pense, au mois de mai. Voilà. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a une structure au niveau national qui est la Fondation de la Résistance, dont le rôle est de recueillir un peu aussi les héritages. Donc nous sommes en contact avec elle, mais tout ça pour l'instant est en gestation, on ne peut pas vous en dire plus.
Ça vous semble important quand même qu'il y ait une structure auxiliaire des pionniers qui soit aussi peut-être un recueil et qui fait que ça continue quand même?
Ah mais c'est important qu'il y ait une suite, que ce soit Alain ou Philippe, c'est des gens acquis qui feront quelque chose, j'en suis certain. Est-ce qu'ils ont d'abord vu leur âge, parce qu'ils sont juste derrière moi, hein, à 9-10 ans près? Si ils trouvent, pour les accompagner, alors, je pense qu'ils en trouveront, parce que dans les enfants de pionniers, beaucoup sont maintenant à la retraite. Et s'ils veulent faire perdurer l'esprit de leur père ou de leur mère, ben, ils doivent venir rejoindre l'association. Maintenant, l'avenir le dira. Hein.
Vous évoquiez il y a un instant, Monsieur Huette, effectivement, pour ce bulletin spécial, beaucoup d'acteurs du Vercors et qui s'intéressent de près ou de loin à la résistance. Vous parlez des militaires, des historiens, muséographes, des collégiens. Alors là, c'est quelque part quelque chose qui se structure, qui se fédère pour un petit peu en termes de transmission pour la suite des événements. Il y a peut-être aussi en tâche de fond des expositions, des travaux communs entre des gens très divers finalement dans le sens de l'idée, du principe des pionniers du Vercors.
Si votre question est-ce que tout ça se concrétise, la réponse est aujourd'hui très claire. On a mis tous nos efforts, et ça n'a pas été rien, sur le 70e anniversaire. Avant de passer, notre Assemblée Générale de 2013 avait très bien dit, 2014, on met tout le paquet sur la réussite de notre charge pour les événements, si bien que pour la suite, maintenant, on s'y attaque maintenant. Donc, pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Si votre question, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit, la réponse est non.
C'est surtout l'organisation qui se formalise autour entre... les musées de la résistance qui peuvent être aussi un support d'exposition avec des historiens qui...
Alors, là-dessus, il y a deux choses. On a un patrimoine et puis on a un héritage moral à transmettre, à faire vivre, à transmettre. Alors, du côté patrimoine du matériel, c'est ce qu'a dit le président, matériel, je me comprends. Par exemple, les nécropoles, c'est une exception en France. Pendant 70 ans, ces nécropoles ont été conçues et entretenues par l'association, même si depuis quelques années, l'ONAC prend le relais pour l'entretien. Mais pour les travaux, c'est très clair, c'est notre association qui a supporté, maître d'ouvrage, les travaux pour que les nécropoles soient bien en état, pour soient dignes pour le 70e anniversaire. Ceci est destiné à être transmis à l'État. On a un certain nombre aussi, on a un patrimoine d'ouvrages, de livres. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On a un patrimoine d'archives. La question, qu'est-ce qu'on en fait ? On est en train de bâtir une exposition virtuelle sur le Vercors, la résistance en Vercors, qui regroupe, dans le cadre de la Fondation de la Résistance, les pionniers, l'Institut d'études politiques de Grenoble, leurs historiens, et la Fédération des soldats de montagne, ici, pour toute la partie expertise militaire. C'est un gros travail qui doit être achevé dans les mois qui viennent, en tout cas avant la dissolution, qui après va assurer la gestion de cette exposition. Alors pour ça, on a un certain nombre de contacts locaux, bien sûr, mais vous me permettrez de pas en dire plus pour l'instant. Mais vous comprenez, il y a bien deux volets. Il y a un volet, si je puis dire, patrimoine tangible à transmettre, et il y a un volet plus moral, plus accompagner la mémoire, plus se tenir au courant de ce qui se passe, plus voilà. Si on fait quelque chose, c'est à bâtir pour l'instant.
Alors cette année, puisqu'on parle déjà de mémoire, c'est un certain nombre de commémorations qui se sont déroulées en cette année 2014. Monsieur le Président, Daniel Billet.
Oui, toutes les cérémonies nous concernant sont terminées pour cette année. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Et je pense que toutes nos cérémonies... pour la mémoire de nos anciens, ont été respectées et très bien faites cette année, que ce soit Saint-Nizier, la première, Vassieux, avec la présence du Premier ministre, le Pas de l'Aiguille, le Tour des Stèles, qui a eu lieu aussi dans votre coin, à Saint-Jean. Pour nous, cette année du 70e anniversaire est derrière nous, puisqu'on a fini notre célébration. Les pionniers ont fait... un travail remarquable aussi avec le général Giraud, les combattants qui faisaient prisonniers, qui assassinaient lâchement. Toutes ces stèles ont été regroupées et vont apparaître sur le site internet, repérées par GPS. Et puis l'année prochaine, on verra comment ça va se passer.
Ce serait bien quand même que des jeunes ou des moins jeunes prennent la suite. Ceux qui veulent participer puissent continuer à entretenir le souvenir. On a 4 cérémonies par an. On a celle de Chavant en début d'année, on a donc le 13 juin au printemps, et on a donc le 21 juillet à Vassieu-en-Vercors et le 14 août à Grenoble pour le monument des fusillés du Cobéria. Et puis sans compter les autres qui sont faites par les autres associations. Donc ce serait bien quand même que des gens de chez nous continuent au moins jusqu'au dernier pionnier, pour pas dire au dernier poilu, continue quand même la mémoire de toutes ces cérémonies, quoi.
Si je me fais centenaire, ça va vous mener loin. Hein. Vous serez peut-être plus là, les gars.
On fêtera ton centenaire, Daniel.
Alors, on va revenir sur... Justement, ce qui résonne avec un peu la fin de l'association, c'est peut-être aussi le début avec Eugène Chavant, qui a été... un peu la personnalité marquante de l'association, à qui vous rendez hommage. C'était la personnalité, on peut dire, de l'association, à qui vous rendez hommage actuellement avec cet ouvrage de Gilles Vergnon pour justement donner un retentissement à ses 70 ans.
Oui, mais c'est pas notre initiative, c'est de la ville de Grenoble, je crois, au départ. Puis le musée qui est conseil général, c'est Olivier Cogne qui en a pris l'initiative, hein, qui nous a contactés, dit nous, bien sûr qu'on est partant, hein, on est d'accord, hein, c'est eux qui ont lancé l'affaire.
Philippe Huette, en termes d'édition, cette année, on peut dire, là j'ai sous les yeux des témoignages qui...
Alors, le conseil d'administration, donc... a choisi effectivement de reprendre la tradition de l'association qui avait déjà publié des témoignages de ses maquisards, plusieurs de ses maquisards, et des ouvrages dont elle a les droits d'ailleurs, et qui sont remarquables, j'en profite pour les citer, du lieutenant Stéphane, le premier maquis, Vercors, premier maquis de France, l'histoire d'Ambel en particulier, le livre d'Albert Darier, Tu prendras les armes, sur le Trièvre, qui est un livre absolument magnifique. Et puis un livre dont on nous demande la réédition qui s'appelle « Le Vercors par ceux qui l'ont vécu ». Et dans les années 90, les anciens avaient fait un recueil de témoignages. C'est très riche, document de 400 pages avec de nombreux témoignages qui était un vrai document pour l'histoire. Bon, il est épuisé. On verra s'il peut être édité par ceux qui viendront derrière nous. Et puis, alors, cette année, donc, dans cette tradition, on n'avait rien publié depuis 20 ans. Et dans cette tradition, on a décidé de publier les mémoires de trois...
Quatre.
Oui, en fait, quatre, mais on a participé très directement à trois. On a aidé le quatrième. Alors, ce sont d'abord les mémoires de Marc Serratrice, avoir 20 ans au Vercors. Marc Serratrice, c'est un... grenoblois, qui est monté pour échapper au STO et qui a fait tout le parcours du maquisard des bois, pour aller vite, jusqu'à la fin des combats. Voilà, donc de début 43 à l'été 44. Donc Marc Serratrice est toujours parmi nous. Dieu merci. Vous le connaissez peut-être, non ?
Non, je ne connais pas personnellement.
Voilà. Et le deuxième, c'est un témoignage de Robert Ben qui vient de mourir. Robert Ben était le chef des radios du Vercors et a été parachuté, venant d'Alger, a été parachuté dans la Vienne en mars 1944. Et il a rejoint le Vercors où il a commandé les radios. Et après les combats de Vassieu auxquels il a pris part, il s'est échappé du Vercors avec plus de 70 de ses compagnons, avec un périple totalement extraordinaire. D'une dizaine de jours, et il a sorti tout son monde avec ses armes, leurs armes, et sans perte. C'est un homme, et il a continué le combat. Et c'est un homme absolument remarquable qui vient de s'éteindre, d'ailleurs, il y a 15 jours. Et voilà. Et donc son témoignage a tout à fait une autre tonalité. C'est un témoignage beaucoup plus, militaire. Voilà. Et ça donne bien les deux aspects complémentaires du Vercors. Le troisième est intermédiaire entre les deux. Il n'est pas encore paru. On l'attend pour d'ici la fin de l'année. C'est les souvenirs de Paul Brisac. Paul Brisac était aussi un grenoblois, commandant une compagnie civile, et qui a écrit de très beaux souvenirs, très bien commenté, à notre avis, par Jean-William de Remes, qui est un historien grenoblois, vous connaissez peut-être, je ne sais pas.
Voilà. Il était DRH chez Merlin Jouin.
Et qui était très beau. Et ces trois témoignages, ça sonne que c'est vrai. Il n'y a pas de superflu, c'est tous des gens d'une modestie incroyable. Incroyable. Bon, et des vrais. Bon. Et puis le quatrième est tout à fait passionnant, mais là nous avons moins... On a donné un coup de pouce moral et financier. c'est les mémoires d'Yves Perrotin, qui était lui aussi, alors, un parcours de maquisard tout à fait extraordinaire, qui est parti du Trièves, qui était ensuite à Malval, qui était un maquis qui s'est mal terminé, qui ensuite a rejoint les équipes de Tivolet, là, du 11e cuirassier, qui a fait toute la guerre avec eux, en Vercors et la suite, qui a été ensuite, c'est un archiviste, et qui a fini comme directeur des archives de Paris, et qui était rapporteur, co-rapporteur du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier sur le Vercors. Donc il y a aux archives des documents où Yves Perrotin intervient dans ce comité. Et c'est sa fille, qui est elle-même archiviste, qui a fait un ouvrage très scientifique, très commenté, qui a été édité ici par les presses universitaires de Grenoble. Alors c'est un ouvrage, disons, un peu plus difficile d'accès parce qu'il est plus scientifique, mais qui est en même temps aussi tout à fait passionnant. Donc voilà, donc les pionniers ont mis la main à ces quatre ouvrages. Et puis, une initiative de notre secrétaire général, c'est l'édition d'une médaille, qui a beaucoup de succès d'ailleurs, d'une médaille du 70e anniversaire. Et puis alors, sur le plan éditorial encore, en plus du bulletin spécial, une cinéaste grenobloise est venue nous proposer de l'aider à faire des reportages dans le Nord Vercors, où des maquisards rencontrent des jeunes des écoles. Alors ça a donné lieu à un premier DVD que l'association a agréé, on a donné un coup de pouce, et il y a un deuxième DVD qui devrait être fini d'ici la fin de l'année, le compte-rendu des cérémonies, un compte-rendu spécial de nos cérémonies. Ce sera un beau souvenir, un DVD qui sera à disposition des maquisards et du public, moyennant une somme modeste. Voilà la médaille qui a été faite pour les 70 ans, c'est la dernière.
Elle vient juste de sortir, là.
Voilà.
Elle est comme moi.
Donc voilà ce qu'on a fait pour ce 70e anniversaire. Voilà, et le site internet.
On peut parler aussi bien d'exposition, avec notamment le musée de la Résistance de Grenoble. Il n'y a pas des échos avec les pionniers sur...
Alors, sur cette exposition, nous avons contribué par deux documents qui sont faits pour notre exposition virtuelle et que le musée a intégré dans ses présentations. Le premier concerne la reconstruction, où un jeune historien du Vercors, Julien Guillon, a fait un beau travail, avec les musées en particulier, sur la reconstruction du Vercors, dans lequel d'ailleurs Eugène Chavant a joué un rôle tout à fait étonnant et déterminant. Quand on pense que c'est lui qui a été chercher des moyens financiers en Suisse, qui a été président du comité de reconstruction, enfin c'est... Vu avec le recul, c'est...
Oui, Eugène Chavant, tout de suite après la libération, je pense que la ville de Grenoble était... Moi, je m'occupais pas de ça à l'époque. Ils avaient réquisitionné les hôtels de Villard-de-Lans et certaines pensions d'enfants pour que les enfants de tout le département aillent passer une année scolaire dans ces hôtels. Il y avait des instituteurs, ça s'appelait les villages d'enfants. Et ça a duré un an et demi ou deux ans, peut-être deux années scolaires, plutôt une, j'en sais, enfin bon. Ensuite, ces villages d'enfants ont continué, d'ailleurs à Champs-Rousses, il y a eu les villages d'enfants. Et pendant un certain temps, Eugène Chavant a été président. Et je crois bien qu'à Autran, sur une ferme, était installé un village d'enfants. Enfin, il y a la plaque, moi j'y étais, quand on a posé cette plaque, il y avait André Chavant et son épouse. Et il me semble bien, c'était une plaque à la mémoire de Eugène Chavant comme président. Il a été président des villages de vacances en France. C'était un gars, d'abord sa droiture, pas de combine avec lui. Hein. C'était faire une comparaison qui est peut-être... Mais le rapport avec l'argent, c'était comme De Gaulle. Les gens, dès qu'il y avait des magouilles, alors là...
Il supportait pas.
C'est pour ça que je ne sais pas si c'est pas ça qu'il a fait quitter le Parti Socialiste.
Bon, ça c'est autre chose, c'est off.
Non, c'est pas off.
Ah bon ?
C'est la vérité. Ah. Ben, quand Destaux, première fois qu'il intervient au monument de Chavant, qui était là où est le cinéma Chavant, Il dit, alors moi je prends quelques mots, hein. Puis il dit, c'est normal que la municipalité de Grenoble honore un grand socialiste. Alors je dis, pardon monsieur le maire, vous pouvez dire un ex-grand socialiste, parce qu'il y a, depuis 45, il n'est plus au Parti Socialiste. Et son fils André, qui a 6 ans de plus que moi, me dit, qu'est-ce que tu dis Danny? Ah, parce qu'on m'appelle Danny, hein. Je dis la vérité, t'es pas au courant, mais moi je suis au courant, puisque mon père avait quitté en même temps le Parti Socialiste.
On termine avec justement au musée de la Résistance.
On a donc contribué pour l'exposition du musée, on a apporté donc le travail de Julien Guillon sur la reconstruction, et le travail de Jean-William de Remès sur l'histoire de l'association. Jean-William de Remès prépare d'ailleurs une histoire de l'association plus consistante, si je puis dire, pour la fin de l'année aussi. Voilà ce qu'on a apporté. Et puis, le musée a sympathiquement accepté qu'il y ait une borne. Dans l'exposition, il y a une borne interactive avec notre musée de la Résistance en ligne, là le site internet dont je parlais tout à l'heure, l'exposition virtuelle, qui montre un peu un échantillon de ce qu'il y a sur le site, et en particulier qui permet de suivre une partie du Tour d'Estelle dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce qu'ont apporté les pionniers à cette association.
Alors puisqu'on parle de mémoire et peut-être aussi de projection, de perspective, il y a quand même la structure qui aussi est un petit peu, on peut dire, à laquelle vous avez pris votre présidence, Monsieur Huillier, le Mémorial National de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, puisque vous avez commencé votre mandat de président avec le début de la structure, on peut dire ça.
Ah non,
c'est à peu près ça, non? C'est pas.
J'ai fait l'inauguration.
Ah, vous avez fait l'inauguration.
C'est tout. Avant, j'ai pas participé, ni avant, ni après.
D'accord. Par contre, ça a été des projets, quand même, des pionniers depuis l'après-guerre, sur ce mémorial qui a, entre guillemets, un peu été un feuilleton, si j'ose dire, puisqu'il y a eu, sur Vassieux-en-Vercors, il s'est passé beaucoup de choses avant que ça se formalise. Vous avez des souvenirs précis?
Alors là, je n'ai aucun souvenir, parce que d'abord, je n'étais plus membre actif des pionniers du Vercors. Quand je suis revenu, c'est surtout Georges Ferrer qui s'est occupé de ça. Et les 4 dernières années, je ne sais pas s'il allait... Je n'étais pas au courant s'il allait aux réunions ou pas, je ne sais pas. Moi, j'ai pris le flambeau, je représentais l'association des pionniers, mais je ne me suis jamais occupé du mémorial, jamais. Parce que, d'abord, c'est lui qui suivait. Est-ce qu'il le suivait encore pendant qu'il était malade? Je n'en sais rien. Il m'en a jamais parlé. Enfin, je savais qu'il y avait un peu des tiraillements entre les pionniers et on ne voyait pas les choses, paraît-il. La muséographie, hein, c'est ça, hein, était... discuter, quoi.
Oui.
Voilà. Là, je peux rien dire, je suis au courant de rien. Maintenant, si toi, tu as des informations là-dessus?
Il faut pas beaucoup plus. Tout ce que je peux dire, parce qu'on l'a retrouvé dans les papiers, c'est que à l'origine, les pionniers souhaitaient créer une fondation. Ouais, bon, mais une fondation, c'est beaucoup d'argent au départ, et ça n'a pas pu voir le jour. Alors ensuite est née l'idée du site national historique. Mais il faut laisser les historiens retrouver les racines très précises. Les pionniers ont été incontestablement partie prenante au départ. Moi, j'ai le souvenir de Georges Ferrer revenant de réunion du comité de pilotage de ce projet. Et comme l'a dit le président, il n'était pas toujours d'accord avec l'orientation du projet et les propositions des pionniers. N'était pas toujours accepté, pris en compte. Voilà. Bon, enfin, mais c'était surtout une initiative de l'État. Alors, c'est vrai que les pionniers souhaitaient une suite, mais c'était d'abord une initiative de l'État qui a mis beaucoup d'argent pour construire le mémorial et des collectivités, en particulier du parc naturel régional, enfin, ou de la région, qui le gère actuellement. Alors, dans ce que fait le site national historique, parce que c'est de ça dont il faut parler, il y a tout le volet chemin de la mémoire, les panneaux que le parc a mis en place aux endroits où il s'est passé des événements, tragiques ou moins tragiques. Et c'est un travail tout à fait remarquable, ça, absolument. Voilà. Et puis, il y a le mémorial, dont l'architecture est tout à fait extraordinaire. Voilà. Mais les pionniers n'ont pratiquement de mémoire, mais pas été associés à la programmation des activités ou du. Les pionniers, grâce en particulier à Alain, ils proposent leurs livres, que le mémorial vend très bien d'ailleurs. Ils sont impeccables. Voilà. Enfin, on a des bonnes relations de personne à personne, si vous voulez, d'homme à homme, mais dans la marche elle-même du mémorial, pour 36 raisons d'ailleurs, dont certaines raisons tout simplement pratiques, on ne peut pas être partout, ni. Voilà, on est moins associés. Ils nous ont demandé des documents pour leur exposition, là, 70 ans après, au Pays de la Liberté, des documents sur l'association, voilà, qu'on leur a fournis. On leur a donné un peu un avis sur la présentation, et puis voilà. Mais on a de très bonnes relations avec le délégué Gérard Estève, avec les gens du parc, avec... voilà.
Et le musée.
Et alors, c'est autre chose, avec le musée départemental. Oui, on a aussi des bonnes relations. Pierre-Louis Fillet...
On a de bonnes relations, plus que c'est département, mais oui. Avec...
Avec la piscirella.
Piscirella, c'était tendu. Hein.
Ah oui. Ah ben c'est, oui. C'est ce qui a été aussi un peu à l'origine du projet, déjà une tension qui laissait un peu paraître, en tout cas, oui, entre les pionniers.
Non, parce que la piscirella a tout fait pour qu'il y ait une autre association que les pionniers du Vercors, avec la salle.
Ah oui.
Je crois que c'est ça.
Enfin, voilà.
D'accord. Et vous avez eu l'occasion de le visiter récemment, non, pas oui. Depuis longtemps, oui.
Oui.
Moi, il y a une semaine, même pas.
Ah, d'accord.
Oui. Moi, j'y suis allé.
J'y vais fréquemment, d'ailleurs.
J'y suis allé, mais j'ai pas eu le temps de le visiter.
C'est un travail
formidable. Le musée,
La dernière fois que je suis allé, on l'a pas visité, c'est le jour de la... qu'il y avait l'évêque.
Ah oui. Oui, tu as raison, oui.
Je crois que je ne l'ai jamais visité depuis que c'est le département.
Ah oui.
D'accord. Donc, c'est le parc, pour le mémorial, vous voulez dire?
Oui. Non.
Le musée.
Musée.
Ah, le musée, c'est le département.
C'est le département.
Oui, c'est ça. Bon.
C'est le département, le musée de la résistance.
Oui. Et le mémorial, c'est le parc. C'est...
Voilà, mais les deux sont très complémentaires. Pierre-Louis Fillet le dit très bien, ça. La vocation de chacun.
Heureusement.
L'un est strictement.
La même chose.
L'un est strictement historique, l'autre est sur le Vercors, l'autre a une approche plus large du contexte, du.
Vraiment jusqu'au tourisme.
Fait intervenir un certain type d'acteurs. Ne présente pas de collection, c'est pas son rôle. Enfin, chacun a son créneau, si vous voulez.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Maintenant, même les gens font même un circuit, j'ai entendu dire, entre le mémorial et le musée. Oui. En termes de ressenti, plus de scénographie, et le musée, plus vraiment des collections d'objets qui sont
les
vraiment...
Les autocaristes, justement, dans le cadre de leur programme, les autocaristes font bien faire le circuit mémorial et musée.
D'accord.
En général, ils commencent par le mémorial pour finir au musée. Bien souvent, c'est ça.
Et vous, M. Carminati, vous avez eu l'occasion de visiter récemment?
Oui, moins d'une semaine.
Ah oui.
Moins d'une semaine.
Et c'est, ça vous donne quelle impression, ce mémorial?
Chaque fois que j'y retourne, c'est toujours quelque chose d'émouvant, d'autant plus que, bon, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir quand même la photo de mon père qui est affichée. Donc, automatiquement, c'est quand même quelque chose pour moi qui est très émouvant. Mais je reconnais que l'ensemble du parcours de l'intérieur de ce musée est relativement bien fait, dans le sens où tout est fait de façon à tout montrer, que ce soit tant la partie allemande que la partie italienne que la partie française. Il n'y a pas comment on pourrait dire, de distinguo. C'est un musée qui expose tout, sans faire de différence entre ce qui est allemand, italien.
Oui, oui.
Tout est exposé et bien commenté, quoi. Et bien commenté, au passage, lorsqu'il y a Céline Hoffler, qui fait un travail magnifique quand elle fait le circuit. Elle est admirable comme
la fille au maire.
Ouais.
Ah, la fille du maire de Vassy-en-Vercors. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Huillier, Philippe Huette et Alain Carminati. En tout cas, le livre, c'est la prochaine étape, hein, sur Gênes Chavans pour les pionniers. Et puis après...
On verra la suite avec la nouvelle association.
Voilà, Amicale.
D'accord, l'amicale qui...
C'est donc, quand même une amicale, c'est quand même une association loi de 1901. Hein.
Ouais, ah non,
Fin de ce magazine d'archives sonores autour des commémorations du 8 mai 1945. Merci à Daniel Huillier, Philippe Huette et Monsieur Carminati d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Le grenier à son, la mémoire sonore en Royan-Vercors.